Coco.
L'émission qui tape à la porte de tes oreilles.
Coco.
Un rendez-vous entre personnes non blanches et racisées.
Tous les deuxièmes samedis du mois, de 16h à 17h30. Sur les ondes de Radio Galère 884.
88.4.
Au programme, des explorations sur des sujets politiques, militants, de la joie à partager,
des conversations plus intimes, des coups de cœur,
des ressources,
des recettes,
du bon son.
Coco.
Coco, l'émission qui tape à la porte de tes oreilles.
88.4.
Bonjour et bienvenue sur l'émission Coco. Donc on était absent un peu ces derniers mois, mais voilà, nous voilà de retour à l'antenne sur Radio Galère. Donc tous les deuxièmes samedis du mois de 16h à 17h30. Et aujourd'hui, on va faire une émission autour d'un collectif qui s'appelle Afromars, du coup un collectif marseillais qui propose un festival depuis 2 ans sur Marseille autour des questions d'afro-futurisme et de transmission. Et donc là, la deuxième édition aura lieu le 23 et 24 mai sur Marseille, au Vidéodrome et à la Touffe Puellé. Et le thème de cette émission, c'est les futurs noirs et les questions de transmission. Du coup, aujourd'hui, on est avec Makeda, qui fait partie du collectif. Makeda, est-ce que tu veux te présenter en 2 mots ?
Bonjour, je m'appelle Makeda, j'ai 25 ans et je suis très heureuse de faire partie de ce collectif Afromars et j'ai hâte de vous présenter le festival qu'on a prévu.
Super, et moi c'est Yama, qui fait aussi partie du collectif Afromars. Et donc, on va commencer en lisant un peu l'édito de cette première édition. Donc, édito qui a été écrit par Liam, aussi membre du collectif, et qu'on essaiera d'appeler tout à l'heure. These dishes ain't gonna do themselves. We don't give up, we move from inna. The love be too nice, it's right within us. It sound like unanet, bounce out, unanet, bounce out, unanet, bounce out, unanet. We don't give up, we move from inna. The love be too nice, it's right within us. It sound like unanet, bounce out, unanet. So, hey, can you help me real quick? We don't give up, we move from inna. The love be too nice, it's right within us. It sound like unanet, bounce out, unanet, bounce out, unanet, bounce out, unanet. Wait, I think the sink is broken.
La première édition d'Afromars a été grande, une célébration pleine de découvertes cinématographiques, une nouvelle collaboration d'artistes avec Eau Vive et Douceur, et un public très enthousiaste venu à notre rencontre. Nous explorons cette année les futurs noirs à travers la transmission, celle qui lie chaque être vivant aux autres, que nous connaissions nos points de départ ou non, qui nous intéressent ou non. Les graines que l'on décide de semer et que l'on porte en soi, parfois sans le savoir, peu importe que l'on se dirige dans une direction inconnue ou que l'on décide d'errer et de se laisser porter avec joie. Comprendre le passé, chérir le présent pour rêver nos futurs. Vivre notre afrodescendance au présent, répondre à nos besoins et nos envies maintenant. Partager les expériences et le savoir dans l'urgence et la bienveillance. À travers 2 jours de festival alliant films, livres, ateliers de coiffure et d'écriture, ces moments de transmission sont créés ensemble pour chacune de nos individualités. Ainsi, dans le futur, chaque personne pourra s'accorder un temps pour soi, pas pour réparer ni pour soigner, pour continuer ou commencer à s'aimer. Dans le cadre du festival Afromars, plongé dans les futurs noirs, un programme proposé par un groupe ouvert de personnes afrodescendantes basé à Marseille. Au programme, du coup, le vendredi 23 mai, il y aura la projection au Vidéodrome de 3 courts-métrages. Le premier s'appelle « Kharme » de Ndiaye Marame avec le soutien du festival Film Femmes Afrique. « Kharme » est un court-métrage bouillonnant d'émotions qui suit Koudia, une étudiante sénégalaise déterminée à construire une pirogue révolutionnaire propulsée par l'intelligence artificielle pour soutenir son père pêcheur. À propos de Ndiaye Marame, la passion du cinéma m'accompagne depuis mon enfance, nourrie par l'univers captivant de l'imagination, de l'imaginaire et de l'image, façonnant ainsi mon parcours à travers la lecture et les bandes dessinées. Mon aspiration est de donner vie aux rêves africains à travers l'art cinématographique. Ensuite seront projetés Zombies de Balogi. C'est la traversée entre espoir et dystopie dans un Kinshasa halluciné. Zombie passe de la culture du salon de coiffure au clubbing futuriste, de la parade urbaine à la gloire d'un dictateur en campagne au western moderne. Et interroge le rapport presque charnel que l'on entretient avec nos téléphones, excroissance de la main nous donnant le don d'ubiquité. Et enfin, la projection d'un dessin animé Vanille de Guillaume Laurin. Vanille, petite parisienne fraîchement débarquée en Guadeloupe, plonge dans une aventure teintée de mystère à la rencontre de personnages pittoresques et d'une fleur magique. Voilà des vacances qui promettent d'être riches en rebondissements.
Et après, on se retrouvera le samedi 25 mai à La Touffe Poêlée. Donc La Touffe Poêlée qui est un restaurant salon de coiffure qui se situe à La Joliette, qui du coup est un endroit familial donc est porté par 3 personnes, Melouma, son mari et sa maman. Voilà, et du coup, on ira là-bas le samedi matin. Il y aura un atelier parents-enfants autour de la transmission et de savoir s'occuper des cheveux texturés. Ensuite, à midi, il y aura donc la nourriture qui est proposée par La Touffe Poêlée. Donc, c'est de la nourriture antillaise. Et l'après-midi, on aura un atelier donc proposé par Michelle Telles, qui est une afro-brésilienne qui a une maison d'édition qui s'appelle BR Marjanalia. Et donc, elle nous proposera un atelier qui s'appelle « Coudre ses histoires » où on écrira un conte collectif. Et ensuite, on fera de la relure pour que chacun, chacune puisse repartir avec son petit carnet de contes. Et ensuite, ce sera suivi d'un atelier marée-tête, donc un atelier où on apprend à nouer les foulards sur la tête de différentes manières, selon aussi où est-ce qu'on se situe socialement. Il y a différents nœuds qui ont différentes significations. Donc voilà, c'est un peu ça qui nous attend pour la fin mai, pour le festival Afromars.
Lego. Comment voir plus loin que le bout de son joint? La mouche tétée, conscience et du bégon. La tête dans le guidon, cache son soporifique. Musique, attrape, clic, 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 clic. Sur les nuisibles, insectes rampants, invisibles.
Aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine.
Aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine.
Aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine.
Aux animaux à côté les mains. Loco la liboke à bas zombier.
Musicaire, anti-pop, antiseptique ou antidote. Zombie, au pied nickelé, torché ou juste perché. Est-ce qu'on a le teint répulsif ou la vue parasitée? Ou est-ce que t'es piqué au vif dans ton sommeil agité? Parce que mortelle est la routine, que le corps se résigne. Grossine, grossine, immobile, mais le fond qui dégouline. Grossine, grossine, remue le bras pour voir si t'es encore en vie. Grossine, grossine, ou si t'es zombie, zombie, ou si t'es zombie, zombie.
Aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine,
aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine,
aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine.
Aux animaux à côté les mains, le col à l'iboké à bas zombie.
Tu dors debout, tu dors debout, c'est
zombie.
Tout paraît flou, tout paraît flou, c'est
zombie.
Oh. Dans la tempête, on se débat. Toi, d'araignée sous les bras, esprit, esprit, frappe. Morsure comme des tasers.
Servitude volontaire. Tu dors les yeux ouverts.
Aux animaux à côté les mains, le col à l'iboké.
Parce que mortelle est la routine, que le cœur se résigne.
Grossine, grossine,
immobile, mais le fond qui dégouline.
Grossine, grossine,
remue le bras pour voir si t'es encore en vie.
Grossine, grossine,
ou si t'es zombie, zombie, ou si t'es zombie, zombie.
Aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine,
aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine,
aux animaux à côté les mains.
Grossine, grossine,
aux animaux à côté les mains. Le col à l'ivoque à bas.
Esprit, esprit, frappeur. Tendant des vapeurs. Esprit, esprit, frappeur. Tendant des vapeurs.
On va essayer d'appeler Liam, du coup, qui fait partie du collectif depuis ses débuts et qui va un peu nous raconter comment le collectif est né, qu'est-ce qui, enfin voilà, comment ils se sont rencontrés, d'où est née l'envie de créer un peu cet événement sur Marseille.
Salut.
Est-ce que tu veux un peu nous expliquer comment le festival Afromars il est né, d'où est venue l'idée, comment vous êtes rencontrés?
Oui, le festival Afromars est né d'une idée de Maï, une personne NB qui avait fait un service civique au V2, Vidéodrome 2, et qui savait qu'il était possible de faire des programmations. Et elle avait envie depuis un bon moment de proposer quelque chose autour de l'afrofuturisme. Et dans le groupe Opal Love, le groupe de personnes noires queer, et elle a envoyé un message pour demander si des personnes avaient envie de créer une programmation avec elle autour de l'afrofuturisme. Et on a été 5-6 personnes à être embarqué dans l'aventure et avoir envie de vivre ça. Et personnellement, j'avoue que j'avais jamais travaillé sur un festival, que je savais juste que le mot afrofuturisme existait. Donc j'ai vraiment tout découvert à leur côté. Tout le monde n'avait pas les mêmes connaissances, que ce soit en termes de films, en termes de notions, de concepts. Et on s'est réunis, on a parlé de ce qu'on avait envie de faire. Et voilà, ça s'est lancé comme ça.
Et du coup, ça a consisté en quoi, la première édition?
La première édition était vraiment autour des films. On s'est d'abord concentré sur des courts-métrages. On a fait la liste de tous les courts-métrages que l'on connaissait. Il y a eu une session, on en a regardé ensemble, ce qui était vraiment super intéressant, de pouvoir avoir nos retours, nos discussions directement ensemble, de programmation. Et donc on a pu sélectionner deux sessions de court métrage et on a laissé après, donc ça s'est passé quand même sur plusieurs mois, on a eu 4-5 mois, on a travaillé à la programmation de court métrage. Après il y a eu l'été où on s'est laissé un peu le temps de regarder les longs métrages, chaque personne de son côté, et à la rentrée se retrouver pour discuter, choisir ensemble. C'était en 2023, la première session était en octobre 2023. Et c'est vrai qu'on s'est d'abord centré sur le film, mais au fur et à mesure, ce festival est venu plus que seulement du film. Même si on voulait dès le début avoir plusieurs arts, des personnes sont venues s'associer avec nous, comme Douceur et Au Vive, qui ont eu l'envie spontanée de créer une performance ensemble.
Trop bien. Et ça a été une réussite, enfin, il y a eu du monde, enfin, ça a bien pris, quoi.
Ça a vraiment été une réussite à laquelle on ne s'attendait pas du tout, parce que c'est la première fois qu'on faisait quelque chose sur le sujet, c'est la première fois que l'on existait. Quand tu demandais qui on était, en fait, on est un groupe de personnes afrodescendantes de Marseille. C'est vraiment comme ça qu'on se définit, un groupe ouvert, tout le monde peut rejoindre. C'est d'identité vraiment de respecter notre point de vue, qui est de personnes du coup qui vivent en Europe, et de vouloir montrer des films de tous les continents, pas seulement en fait les films qui, j'ai envie de dire, nous ressemblent, mais de montrer tous les afrofuturismes. Et c'est vrai que ça bah, les salles étaient pleines, en fait. À chaque séance, les salles étaient pleines. On s'est posé la question de doubler des séances. Et c'est quelque chose qu'on ne pourra pas faire cette année parce qu'on n'a pas assez de créneaux. Mais la prochaine fois, on le fera systématiquement. Enfin, c'est vraiment quelque chose auquel on a pensé. Les retours étaient géniaux en termes de... Enfin, les personnes étaient très heureuses et émues des films qu'on avait programmés. C'était fidèle à nos valeurs, qui étaient l'inclusivité, le féminisme, l'écologie, toutes sortes de thématiques qui sont importantes pour nous. Et il y avait aussi du coup une artiste, Marina, qui était venue présenter des dessins. La librairie internationale avec qui on avait fait une sélection de livres aussi sur le thème. Enfin voilà, c'était vraiment riche.
Super, ben, merci beaucoup Liam pour un peu cette description de la naissance du collectif et de ce qui s'est passé à la première émission. Est-ce que tu as envie de nous transmettre un message, quelque chose ?
Venez, la première édition était géniale, la deuxième sera différente, tout aussi bien, vous ne regretterez pas.
Merci, à bientôt, bonne fin de journée.
Au revoir. Merci.
Toi, du coup, Makeda, tu as rejoint le collectif là récemment. Qu'est-ce qui t'a emmené à rejoindre le collectif ? Qu'est-ce qui te parle dans ces questions un peu de afrofuturisme et de futur noir ? Enfin, comment ça résonne avec toi ?
Et ben moi, j'ai rejoint le collectif il y a quelques mois. Moi, j'ai grandi à Marseille et j'ai grandi dans un milieu assez blanc. Malgré le fait que j'ai grandi en centre-ville et qu'il y avait beaucoup de mixité dans mon entourage, dans les milieux scolaires et tout ça, c'était plutôt blanc. Et je pense que je manquais beaucoup de représentation. Et je suis revenue à Marseille en janvier. Et c'est à ce moment-là que j'ai cherché un peu s'il existait ici, comme dans d'autres villes, des collectifs dans lesquels je pourrais me sentir libre d'exprimer certaines parties de mon identité qui sont un peu... effacé dans mes autres espaces. Et c'est là que j'ai découvert About Love, du coup, qui est un collectif dont a parlé Liam aussi, sur Insta, parce que du coup il y a une page Insta, et je suis allée à un repas qu'on fait tous les mois, et voilà, ça s'est super bien passé. Il y a plein de projets trop beaux qui se montent, de gens trop intéressants, du coup ça m'a fait du bien de me sentir représentée. Et je pense que ça correspond aussi à un moment de ma vie où j'ai besoin de me sentir entourée de personnes qui me ressemblent. Et c'est trop cool d'avoir cet espace qui n'existait pas du tout à Marseille quand j'étais petite. Ni les milieux queer aussi accessibles, ni des milieux afrodescendants. Donc voilà, je suis trop heureuse que cette ville se saisisse aussi de ça et qu'il y ait plein d'énergie, de nouvelles énergies pour raconter nos histoires, pour nous donner de la visibilité. Tout ça dans aussi beaucoup de bienveillance et sans de pression, de forcément faire des trucs hyper productifs. Donc voilà, je suis trop contente. Et toi ?
Eh ben moi, j'ai rencontré justement le collectif About Love par Afromars. Je suis arrivée à Marseille il y a un an et demi. Et du coup, j'ai vu cette programmation au V2 et j'étais en mode « Waouh, ça a l'air super !» Sachant que moi, à Montpellier, j'avais déjà un collectif entre personnes racisées, queer, où on avait fait un festival qui s'appelait Afrotopie. Du coup, j'étais vraiment en mode « Waouh, c'est genre la même chose à Marseille, j'adore !» Et du coup, voilà, j'ai été à la première édition que Liam racontait et on est allé voir un film... Neptune ? Bon, en fait, je m'en rappelle plus. Mais voilà, c'était un film vraiment assez bouleversant, enfin genre... Les déguisements, enfin les costumes dans le film étaient incroyables. C'était ouais des personnes noires qui allaient genre dans un autre monde et tout. Enfin vraiment c'était assez et voilà et juste de voir que ces personnes comme tu dis elles existent, elles sont là aussi voilà des personnes noires queer qui prennent la parole, qui présentent des choses. J'étais en mode waouh mais moi je veux trop faire partie de ce collectif quoi. Et voilà, et donc après ils m'ont dit « Ah bah là on sait pas encore comment ça va se faire l'année prochaine, mais en tout cas il y a About Love qui existe ». Et donc j'ai rejoint un peu voilà, le collectif About Love par ce biais-là. Et puis je pense que la question afrofuturiste, moi elle me touche dans le sens où je me dis que là notre réalité d'aujourd'hui elle est tellement difficile. Elle est tellement violente. Enfin, tous les jours, t'allumes la télé, t'allumes la radio. Voilà, là, il y a Aboubacar qui vient de se faire assassiner. Enfin, genre, en fait, ça ne cesse d'être hyper violent. En fait, je trouve ça hyper important de se construire des utopies joyeuses, belles, et d'avoir une sorte de point d'arrivée de. En fait, c'est quoi le monde qu'on souhaite voir advenir, quoi. Et qu'on a aussi besoin de ces représentations et de pouvoir en fait s'échapper quelque part de la réalité par l'art, que ce soit genre des films, des discussions, des échanges, parce que sinon c'est trop dur, quoi. Et du coup moi c'est là où ça m'a parlé un peu cette question de l'afrofuturisme. Toi c'est un sujet que t'as un peu en tête, que t'as déjà entendu ou...
C'est marrant parce que moi, c'est un sujet auquel je pense depuis longtemps, dont je parle beaucoup dans ma famille, notamment le rapport à la transmission, le rapport au silence. Et en fait, je savais pas trop que ça existait, le concept d'afrofuturisme, avant que je découvre ce festival. Je pense que j'en ai déjà entendu parler, j'ai déjà vu des performances qui traitent de ça, mais j'avais pas mis de mots dessus. Et je trouve que c'est hyper cool. Enfin, moi, ça me fait du bien de me dire qu'il y a un moyen. Enfin, déjà, il y a un espace qui existe pour penser nos futurs, ce qui n'est pas du tout le cas. On peut même pas penser nos passés, donc les futurs, laisse tomber. Et du coup, je trouve ça trop cool qu'il y ait un mot pour ça. Et j'ai découvert plein de formes d'art et d'expression depuis que je sais que ce mot existe et qu'il y a tout un mouvement et qu'il y a déjà plein de choses aussi qui sont à célébrer autour de ça. Du coup, oui, ça me parle beaucoup. Je pense que, comme tu disais, l'existence dans l'espace public, le fait de pouvoir se raconter et tout, c'est trop cool. Et de pouvoir s'inventer collectivement des choses qui nous font du bien, mais entre nous, quoi. C'est-à-dire que personne ne va l'inventer à notre place. Donc, je trouve ça trop cool de pouvoir saisir de ça. Et il y a plein d'idées qui émergent et de gens qui font des trucs trop cool. Et ça, je trouve ça... trop bien aussi de valoriser ça, puisqu'on pense souvent que c'est hyper compliqué d'accès. Et en fait, en cherchant des films, on s'est rendu compte qu'il y en avait plein. Et que voilà, c'est une question de curiosité et de temps que tu passes à faire ces recherches-là, quoi.
Ouais, oui, c'est vrai. Et je trouve ça intéressant ce que tu dis, ça me parle, ce truc de... En voulant réfléchir à l'afrofuturisme, en fait, on va beaucoup piocher dans les questions de transmission et dans notre passé, quoi. Genre, que ce soit dans les spiritualités africaines, souvent, c'est des choses qui proviennent aussi de ce qu'on a pu nous transmettre quand on était jeunes. Ou même, je trouve l'utilisation des savoir-faire techniques, tu vois, dans la confection, que ce soit pour les performances, de décors ou de... Et du coup, c'est vrai qu'en plus, ça nous pousse à partir aussi à la recherche de nos racines, quoi. Et c'est vrai que ça, c'est assez, assez magique. Enfin, c'est assez, assez, assez beau, quoi. Et ben, si ça te dit, on va essayer d'appeler Asia. Du coup, Asia, qui est une personne programmatrice dans le monde de la culture, qui va un peu se présenter.
Hello, est-ce que vous m'entendez bien ?
Ouais, nous on t'entend. Est-ce que tu nous entends ?
Ouais, je vous entends.
Trop cool. Eh ben, merci beaucoup, Assia, de nous rejoindre pour ce petit moment de discussion sur l'afrofuturisme et la transmission. On était en train de justement de discuter avec Yama de ce que ça nous évoquait, l'afrofuturisme, comment est-ce qu'on a été amené dans notre vie à se questionner sur cette question, sur ce sujet. Du coup, est-ce que tu peux te présenter et nous dire un peu qu'est-ce que ça t'évoque, dans ton travail, comment est-ce que tu arrives à parler de ces questions-là?
Alors, pour me présenter, moi je m'appelle Assia, je suis une personne métisse franco-nigérienne. Je suis à Marseille depuis 3 ans et demi, sinon je viens de Montreuil et j'ai vécu pendant longtemps au Brésil où j'ai pu faire mes masters et aussi découvrir que j'étais une personne racisée et que c'était positif. Voilà. Alors moi, je suis aussi donc pour la partie travail, métier, je suis productrice et curatrice indépendante et je travaille vraiment dans le champ de la danse et de la performance. Je suis venue à Marseille parce que j'avais été recrutée par la Horde, qui est le collectif qui a la direction du Ballet National de Marseille, pour être un endroit de programmation et de projets avec les publics. Donc, comme ce que pouvait faire l'eau au théâtre de l'atelier, c'est ça. Voilà, et dans ce cadre, donc c'est relations avec les publics, en gros, qu'on peut dire dans l'institution, c'est ça l'intitulé du poste. Et typiquement, dans les institutions, c'est souvent des personnes racisées et des meufs. Parce que c'est un vrai travail de care, de soin, et de faire le lien entre l'institution et les publics. Moi, j'ai toujours choisi de travailler dans des institutions en banlieue. Et donc là, c'était la première fois que je me retrouvais dans une institution, dans un quartier ultra bourgeois qui travaillait avec des publics ultra privilégiés. Donc j'imagine qu'ils m'ont aussi recrutée pour changer ce prisme-là. Mais je ne m'étais pas rendu compte aussi à quel prix j'allais... ça commence à aller me coûter moi de faire ce lien entre l'institution et des personnes qui sont éloignées de ces institutions par choix ou par pour toutes les raisons qu'on connaît. Que dire d'autre ? C'est aussi une institution ultra blanche. Et pour moi, c'était important de faire entrer des artistes queer, racisés, qui avaient aussi fait le choix de s'éloigner de l'institution parce que c'est un endroit qui reproduit beaucoup de violence. Donc, je faisais aussi le lien un peu tampon où ces artistes-là venaient, artistes, chercheuses, sponsoreuses, parce qu'elles savaient que j'étais là. Donc il y avait une sorte de pacte de confiance qui s'était fait entre nous. Et ensuite, je faisais le lien avec les personnes blanches à l'intérieur de l'institution. Pareil, je n'avais pas mesuré aussi ce que ça pouvait être comme exercice de dissociation, de jouer entre les deux. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, pour refaire le lien avec l'eau, elle m'a beaucoup aidée aussi à temporiser, à dire que, à me rappeler à quel point c'était important d'être à ces endroits-là, à quel point il fallait aussi se protéger soi. Et ce qui était assez difficile, là je vous donne tout le contexte, après peut-être sur des questions précises, mais voilà, c'était aussi de pas trahir la confiance des personnes qu'on invite, de pas tokeniser sur ce qu'elles sont. Et en même temps, de pouvoir se protéger, nous, à l'intérieur de l'institution. Bon, suite à quoi, je suis partie et j'ai monté un bureau de production qui s'appelle Oya et qui accompagne des artistes queer et racisés dans le champ de la danse et de la performance. Et actuellement, je suis programmatrice pour le Festival Parallèle à Marseille et Art Émergence à Paris, qui auront lieu en octobre et en février 2026. Voilà.
Ok, super, merci beaucoup. C'est intéressant, je trouve, cette question de vouloir donner la place aux nôtres et en même temps comment ça te coûte aussi, toi, personnellement. Et du coup, tu as fait le choix de l'indépendance, quoi, si j'ai bien suivi.
Ouais.
Parce que là, c'est du coup, Oya, tu restes seule ou c'est aussi un collectif, il y a des gens autour de toi et vous êtes plusieurs à mener ce projet ensemble?
Eh bien, on était deux. On était deux, j'étais avec un collègue, Bilal Boucharet, qui lui travaillait plus dans le champ du cinéma. Mais en fait, ça reste un mec 7 et on s'est rendu compte que nos chemins ne pouvaient pas aller. Enfin, disons qu'on ne se battait pas pour les mêmes choses, quoi. Voilà. Donc, évidemment qu'on se bat pour la gloire, mais c'est pas que ça. Enfin, c'est Oya, c'est avant tout pour moi un projet qui est ultra militant et qui permet de structurer. Enfin, je me suis aussi rendu compte en travaillant en ballet et en croisant énormément d'artistes que les artistes queer et racisés, c'était les personnes les moins bien structurées. Donc, hyper compliqué de bosser avec elles parce qu'elles n'ont pas de structure juridique. Et donc, je me suis dit, OK, il y a un vrai impensé là-dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de... Enfin, il n'y a pas de transmission à cet endroit-là, par exemple. Je me disais, c'est dingue que, je ne sais pas, les artistes... qui peuvent être des personnes blanches, tout ça, n'ont jamais fait le lien avec des artistes racisés en disant, je sais pas, c'est important d'avoir une asso pour faire des cachets, pour pouvoir se déclarer, des choses basiques du monde du travail, quoi. Donc voilà. Donc moi, c'est à cet endroit-là que j'ai monté ce bureau de prod. Et du coup, on fait collectif avec les artistes que j'accompagne parce que, évidemment, quand il y a un artiste qui est racisé, en tout cas, je parle que dans le prisme de la danse et de la perf, et que tu as commencé à monter ta carrière, tu as un pied dans la prod. Donc, c'est des artistes qui ont vraiment déjà un pied dans la prod puisqu'ils ont dû tout faire solo. Et moi, j'ai aussi une pratique du corps. Donc, il y a vraiment un échange entre nous où on fait des workshops de prod comme on fait des workshops de danse, quoi, ensemble.
Ouais, bah trop bien. Oui, c'est vrai que c'est un grand impensé. Enfin, moi, j'avais monté un festival à l'époque à Montpellier et comme tu dis, en fait, des personnes talentueuses autour de nous, c'est très facile à trouver. Mais par contre, quand il s'agit de devoir faire des cachets ou des guzos, en fait, plus personne n'a de structure et du coup, ça rend vraiment très compliqué le fait de monter des projets, quoi. En tout cas, en voulant aussi permettre aux gens de pouvoir avoir de l'argent qui n'est pas juste de l'argent qui transite du bar où genre on fait des micmacs pour pouvoir payer les gens, quoi. Du coup, c'est super que ça existe. Enfin, ça fait plaisir et y a un grand besoin. Et est-ce que la question des futurs noirs, de l'afrofuturisme, c'est quelque chose qui existe aussi dans ton travail ou dans les artistes que tu accompagnes? Enfin, c'est un sujet que tu as l'impression qui est un peu présent ou pas forcément?
Alors, l'afrofuturisme, comme moi j'entends la définition, mais peut-être vous pourrez me donner la vôtre, ça ne traverse pas dans mon travail. Après, c'est un concept que j'aime beaucoup dans l'art. Mais la question des futurs noirs, évidemment, c'est au centre, c'est au cœur. C'est au cœur de mon travail et des artistes que j'accompagne, ouais. Carrément. C'est-à-dire que je sais pas si vous voyez qui c'est, Laura Raio, qui est une artiste brésilienne, performeuse.
Non.
Qui est basée à Marseille, mais qui du coup travaille vraiment sur la question de l'apocalypse. Et tout notre travail ensemble, par exemple, j'ai 50 000 doubles appels. Et donc toute la question de notre travail ensemble, vraiment à l'endroit très concret de la production, mais aussi de la pensée artistique et de la pensée de comment on défend le projet, c'est on est toujours en train de se rappeler que comment on met des outils en place de prod artistique, de collaboration pour traverser l'apocalypse qu'on est en train de vivre et mettre en place un terrain dans lequel les futurs noirs pourront exister. Et donc ça, c'est vrai qu'on se le... Enfin, c'est des outils très concrets qu'on met en place entre nous, quoi.
Trop bien. Et est-ce que dans les retours, dans les publics que vous arrivez à toucher, vous arrivez à avoir un peu un retour global sur ce que ça peut provoquer, ou est-ce que c'est un peu difficile de toucher des publics concernés? Je me pose cette question, je trouve que des fois, les milieux artistiques comme la danse et tout ça, c'est un peu des milieux difficilement accessibles pour plein de publics. Et du coup, voilà, est-ce que vous faites face à cette, cette problématique ou pas trop? Comment est-ce que tu gères ça?
Alors, c'est vrai qu'il y a plusieurs échelles. Par exemple, quand j'étais au ballet, j'avais créé un festival qui s'appelait Moteur de recherche, où c'est un festival du coup, qui parlait de la question de la réparation au sein de l'institution, qui est moi mon sujet de recherche, en fait. Et donc, ce festival présentait des étapes de travail d'artistes principalement queer, racisés, et des projets de recherche avec des conférences, des films, des perfs, des concerts, enfin des chorales, voilà. Et par exemple, enfin la programmation, enfin pour moi il y a vraiment un lien entre programmation et public, c'est-à-dire c'est sûr que si tu programmes Anne-Kérèse Altersmaker, qu'on adore, qui est la plus grande chorégraphe flamande blanche européenne, enfin la programmation va aussi avec les publics, c'est-à-dire que quand on a des programmations en adéquation avec la problématique de ces publics, évidemment que le public est touché. Donc, c'est un événement gratuit en plus, sans réservation. C'est aussi de penser la facilitation de l'accès, donc de ne pas avoir à réserver, de se dire, bon, bah, ok, tu peux venir quand tu veux. Il y a aussi, je pense, ces choses-là à repenser dans l'institution, qui sont très codifiés et qui peuvent faire, enfin qui font pour moi volontairement barrage, hein, c'est un choix, c'est pas un non-pensé. Du coup voilà, c'est un accès libre, gratuit, avec aussi une grande question de l'hospitalité, c'est-à-dire que tu pouvais manger, tu pouvais te poser. Enfin voilà, il y a ça aussi, c'est-à-dire que moi je suis un produit fabriqué de l'institution et de l'art. Ma mère, elle vient de ce milieu-là. J'ai toujours été dans des salles de spectacle, dans des musées depuis que je suis toute petite. Donc pour moi, la question de la barrière, j'ai dû vraiment apprendre ce que c'était qu'une barrière. Moi, je me suis toujours dit, moi j'ai toujours été dans des salles. Pourquoi il n'y a pas de gens comme moi dans les salles? Et en fait, j'ai vraiment dû me confronter à cette question. Et c'est pour ça que je suis allée vers les relations avec les publics. Mon père, par exemple, lui, est entraîneur de foot dans les quartiers depuis toujours. Et donc, j'ai toujours été sur cette question de mais pourquoi dans les stades, il n'y a que des personnes racisées, il y a de l'ambiance, on mange. Et donc, en fait, pour moi, cet endroit, cette question du lieu, j'étais là, mais comment est-ce qu'on peut faire en sorte qu'on utilise l'hospitalité du sport, par exemple, et à intégrer dans ce milieu de l'art qui est trop chiant, quoi, tout simplement. Voilà, et je trouvais que à l'endroit de la danse, c'était possible. J'ai travaillé au Brésil, à Rio, dans un lieu qui s'appelle le Centre d'art de la Marée, qui est un lieu de création pour la danse contemporaine, qui a été créé par Lia Rodriguez et qui se trouve dans un des quartiers les plus intenses, les plus pauvres aussi de Rio. Et vraiment, on parle de danse contemporaine archi-radicale, c'est-à-dire que même si on est hyper sensibilisé à la danse contemporaine, c'est ultra conceptuel. Et pourtant, t'as toutes les personnes du quartier qui viennent parce que c'est ouvert, parce qu'il n'y a pas de billetterie, parce que t'as de l'eau fraîche, parce que t'as la clim, parce que la question de l'hospitalité, elle est pensée avant la question de l'œuvre au plateau, quoi. Donc, je pense que c'est ça qui est important. Et pour revenir aux artistes que j'accompagne, alors, ça dépend des endroits où on est programmé. Mais quand on est programmé dans des méga grosses institutions, par exemple, là, j'accompagne Cattle Teixeira aussi, qui est un artiste brésilien. Ce qu'on fait, et sur les conseils de Rebecca Chaillon, c'est qu'on demande aux institutions de garder des places pour les personnes au premier rang, pour les puis aussi personnes, avec des tarifs préférentiels pour les personnes racisées. Voilà, ça c'est des petites tactiques comme ça qu'on essaie de mettre en place avec les institutions. Et vu qu'elles ont l'impression d'être trop déconstruites quand elles font ça, elles sont hyper partantes. Donc voilà.
Ok, trop cool. Merci beaucoup pour tous ces tips, ces conseils aussi que nous on pourra peut-être appliquer. Je trouve que c'est trop intéressant que dans un pays comme le Brésil, qui a un rapport très différent à cette question de l'afro-descendance, des personnes racisées et tout, de voir comment est-ce que l'hospitalité et le lien culturel qu'ils font et social permet d'amener les gens vers l'art et tout. C'est trop, trop, trop cool. On va essayer de s'inspirer de tout ça. Merci beaucoup pour ce partage.
Avec plaisir. Je ne sais pas si vous avez d'autres...
Non, pour l'instant, c'est bon. C'était super intéressant. Et on te laisse continuer à travailler. Merci beaucoup d'avoir pris ce temps.
Merci à vous. Et puis, bon courage, bon travail. Et bonsoir pour la suite.
Merci
beaucoup à toi aussi.
Et avec plaisir de te voir au festival si jamais tu es dans le coin.
C'est fort noté.
Super. À bientôt. Bonne journée.
À bientôt. Salut. Ciao. And the master was a slave. The killer was the victim. And man was God. My nose wide as a red sheet. Lips full of fillers, don't feel me. Soon as my cousin killer's on trial. Family gon' pull up sitting courtside. God said they say we singing la la la. Don't want no vultures on our side. Looking black is the Messiah. We got superpowers.
Toi, ça t'a soulevé des choses que t'as envie de partager ?
Grave, moi je partage son ressenti de moi aussi quand j'étais petite, je suis beaucoup allée dans des espaces culturels où il n'y a pas du tout, non seulement de représentation sur scène ou alors de représentation problématique, et en plus de ça, dans le public, ce truc de se sentir... Même j'ai beaucoup eu cette sensation.
Oui, carrément, et puis aussi... là, moi, ça me fait plaisir, Afro-Mars, de me dire que c'est aussi accessible à nous de se mettre en valeur, quoi. Et tu vois, aussi de toucher à ces questions de programmation. Enfin, j'ai l'impression, dans le groupe, il y a l'eau de qui c'est le métier, quand même. Mais sinon, c'est quand même que des personnes dont c'est pas, quelque chose forcément de l'ordre du métier et des compétences vraiment acquises. Et pourtant, on y arrive et aussi on se porte un peu ensemble là-dedans, d'apprendre. Liam disait, j'ai appris à faire du sous-titrage. Enfin, tu vois, là, ça fait aussi plaisir de se dire, j'apprends comment on fait une programmation de court-métrage, comment on prend contact avec les maisons de production. Et du coup, je crois que moi, c'est ça aussi que j'aime bien dans ce groupe. C'est vraiment ce truc de donner accès aussi à des compétences et du coup, de pouvoir se dire waouh, on a monté un petit festival, même si c'est pas quelque chose de grandiose, mais genre en fait, c'est déjà super quoi.
Mais grave, il y a tout le truc de l'auto-formation qui est trop cool quand t'es dans un collectif, parce que du coup, on va dire que la force du groupe, elle te porte à faire des choses que t'aurais pas osé faire. Et toutes les choses sont apprenables, quoi. On peut tous apprendre à faire moi, j'apprends à faire une émission de radio actuellement, tu vois. On a tous accès à ces compétences-là. Et je pense qu'il y a aussi tout un truc de se dire que ça ne nous concerne pas, que c'est trop difficile, que si tu n'as pas tous les diplômes, tu n'es pas hyper légitime. Et la question de la légitimité, elle est primordiale, je pense, aussi dans notre façon de raconter nos histoires, de transmettre. Si tu ne te sens pas légitime, tu ne peux pas transmettre. Et du coup, je trouve que c'est trop fort qu'en tant que collectif, on puisse mutuellement s'apprendre des choses et se pousser à apprendre aussi des choses qu'on ne sait pas, que personne ne sait, et qu'on va essayer, en fait. Et moi, j'incite grave les gens à développer des projets si ça leur parle. En fait, on a en nous ce qui est intéressant à raconter. On a en nous on porte tellement d'histoires et de rapports à notre société qui sont partagés par plein de gens que en fait il suffit de s'y mettre et ça peut faire des trucs trop cool. Et je pense que si la première version de ce festival a autant marché et le fait que moi j'ai eu envie de rentrer dans ce collectif, c'est aussi parce que c'est des questions qui nous touchent trop et dont on parle pas assez. Et donc en fait c'est aussi en se saisissant nous de ce truc là et en le rendant très accessible, comme elle disait, c'est-à-dire que là c'est complètement gratuit les ateliers, au V2 c'est payant parce que c'est une adhésion et tout ça, mais c'est quand même des tarifs qui sont faibles, ça rend le truc beaucoup plus simple. Et donc à la fois pour nous c'est cool de se dire que c'est très accessible et en même temps ça légitime notre travail de se dire qu'on peut monter quand même des trucs qui sont importants, qui durent plusieurs jours, qui sont sur des questions qu'on a choisies complètement et tout ça. Donc voilà, moi je trouve ça trop cool, cette question du public, du lien avec le public et tout.
Bah moi je suis hyper d'accord avec toi et en même temps ça me pose question quelque part, enfin pour avoir monté un festival à Montpellier, de aussi tous les copains qui étaient en mode ah oui on peut faire ça gratuitement, et je me disais aussi oui mais en fait votre art il est, pourquoi on se paye pas, enfin tu vois, dans un sens de moi c'était majoritairement des copains queer racisés donc précaires, enfin en tout cas j'ai l'impression que c'est aussi la majorité de nos existences, c'est ça. Et du coup je me disais mais est-ce qu'on est en train de monter quelque chose où on s'auto-précarise nous-mêmes, où on fournit du travail qui est pas rémunéré? Et du coup, je trouve cette question de l'accessibilité, elle se mélange à, je trouve ça hyper important que ce soit gratuit ou faible pour les personnes qui viennent participer, mais comment aussi on arrive à rentrer dans les institutions pour aller chercher de l'argent ou faire des cagnottes ou comme elle disait, demander des places gratuites, mais que ça ne coûte pas à nous-mêmes et à nos communautés de fournir du travail gratuit encore et toujours. Et moi, ça, c'est vrai que c'est toujours une question qui me turlupine. Je sais pas, c'est le mot qui me vient dans la tête. Quand j'ai envie de monter des festivals ou de créer des trucs, de me dire « Ah, mais on n'a pas d'argent. » Du coup, est-ce que ça bloque ou pas ? Et en même temps, l'envie d'être représenté et juste de se voir et de se montrer, et aussi l'envie de dire « Ah ouais, mais en fait, on a aussi envie de vivre de notre art et de notre implication politique, quoi. »
Ah non, mais je suis complètement d'accord avec toi. Je pense que la question économique, elle est hyper politique et cruciale. Et par rapport à la gratuité, moi, je pense que effectivement, le fait même que l'art soit gratuit en soi, ça peut être problématique. Et ça marche pas forcément mieux parce que c'est complètement gratuit. Mais effectivement, qu'il y ait des prix adaptés, qu'il y ait des prix libres ou qu'il y ait plein de tarifs, tu vois, aussi pour que les gens qui ont de l'argent payent là, en fait, et investissent, et les gens qui n'en ont pas puissent y avoir accès, enfin, tu vois, qu'il y ait une espèce d'une répartition économique de l'accès à l'art. Je pense que c'est trop intéressant. Et la question de payer les artistes est primordiale. C'est-à-dire que c'est clair que si tu vas voir un spectacle où les personnes ne sont pas bien rémunérées, c'est déjà un problème en soi. On ne peut pas s'auto-exploiter. Donc oui, et ça, pour moi, ça rejoint la question de la légitimité et de l'accessibilité, où comme les gens se sentent, il y a une délégitimation de cet art-là, oui, forcément, on va se dire, je vais pas faire payer cher et tout, alors qu'il y a des spectacles qui, franchement, sont pas hyper passionnants, qui coûtent très très cher et les gens payent quand même. Donc c'est vrai qu'il y a toute une réflexion à avoir là-dessus.
Eh bien, on va rendre l'antenne, mais pour le festival, pour rappel, ça aura lieu le 23 et 24 mai 2025. Et vous pouvez du coup nous contacter sur nos réseaux sociaux. Makeda, je te laisse.
Ouais, du coup sur Insta, c'est afromars.festival. Voilà, si vous avez des questions, si vous voulez vous inscrire à un atelier, n'hésitez pas à nous contacter sur ce compte. Et sinon sur Facebook, il y a aussi Afromars hashtag 2. Voilà, la deuxième édition du festival, pareil. Il y a aussi la description du programme si jamais... voilà, n'hésitez pas.
Et on vous invite notamment au Vidéodrome si vous voulez arriver un peu en avance, parce que c'est vrai que la salle n'est pas immense, du coup c'est souvent plein. Mais voilà, avec plaisir de vous retrouver pour le festival Afromars en mai. Et puis comme Liam l'a rappelé, c'est un collectif ouvert. Donc aussi, si ça vous donne envie, si suite au festival vous vous dites « Ah mais moi j'ai trop envie de faire partie de l'équipe », ben vous êtes les bienvenus. Là, je m'adresse bien sûr aux personnes racisées, hein, parce que on les connaît.
On se sait, on voit venir.
mais voilà, en tout cas, vous êtes grave les bienvenus. Et puis, avec plaisir de vous retrouver à Marseille pendant Afromars, quoi.
Venez nombreux, nombreuses, ça va être trop cool.
Beck Records. Bébé, mon boya.
So what's the